Bonsoir, j'aimerais vous partager une réflexion sur le karma. Le Dalai Lama a dit que de comprendre le karma, c'était plus important que de comprendre tout le Mahayana. Et dans l'histoire, le Bouddha, on dit qu'après son illumination, il a eu trois tiers de nuit. Le premier tiers où il a revécu ses vies passées. Le deuxième tiers où il a vécu les vies passées de tous les êtres qui viennent et passent. Et le troisième tiers où, à travers sa compassion, pour voir tout ce qu'on vit sur cette terre, il a découvert les quatre vérités nobles pour nous permettre de nous libérer du karma. Alors évidemment que la notion du karma, ça n'est qu'une notion, mais c'est une notion qui peut beaucoup aider parce que ça situe bien cette cohérence mystérieuse qui fait que, au lieu de nous situer comme victimes ou comme fautifs, ou nous sommes juste responsables. Nous sommes responsables de tout ce qui arrive dans nos vies, de par cette loi de cause à effet, où j'ai été une fois dans une vie passée un bourreau, une victime, un père, une mère, un enfant, un sage, un fou, un mendiant, avec un contenu à l'intérieur très différent. Une fois plein de bonté, une fois plein d'ignorance. Bien sûr, dans d'autres traditions où cette notion du karma n'existe pas, la libération est possible. Elle se fait juste autrement. Donc, j'aimerais juste citer Master Shen Yang qui dit que toute pensée est illusion. Les pensées de sagesse sont aussi des illusions. Mais ce sont des illusions qui mènent à la non-illusion. Donc si on peut employer cette notion du karma pour être plus clair dans le lien que nous créons à l'expérience, ça vaut la peine. Le karma, ça n'est pas la fatalité, c'est cette loi de cause à effet. Où à chaque fois que je pose une pensée, une parole ou un acte, c'est pas fini, c'est pas la fin. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui se marque dans notre conscience, mais dans la conscience des autres également. Et le poids karmique des pensées négatives ou positives est beaucoup plus faible que le poids karmique des paroles ou que le poids karmique des actes. Le plus puissant, c'est l'acte. Il y a donc un impact mystérieux. Et même si cette notion du karma, ça n'est qu'une pensée, c'est du vent, ça n'est pas du réel, c'est un vent qui peut être très utile pour nous pousser à agir et penser de manière bénéfique et lâcher ce qui est non bénéfique. Et bien sûr, il y a ces trois aspects importants, c'est d'éviter de faire du mal, de faire du bien et de cultiver notre esprit. Et la part qui consiste à cultiver notre esprit, est la plus importante parce que autrement nous sommes totalement liés à notre karma, nous n'avons aucun choix. Nous sommes dans cette roue du samsara où nous ne pouvons pas nous voir l'expérience. Nous ne pouvons qu'y croire et qu'être complètement partie du karma commun. Il y a deux sortes de karma. Il y a le karma que nous pouvons constater dans cette vie, de cause à effet. Et puis, la notion du karma d'une vie à une autre vie. Et il y a une image très parlante pour moi qui essaye de nommer cette espèce de continuum. Parce que ça n'est pas du tout un moi qui va créer un autre moi. Ça n'a rien à voir. C'est comme s'il y avait un continuum de conscience dans la conscience universelle. Et l'image, c'est quand une bougie arrive au bout de sa cire, la flamme s'éteint. Mais avec une autre bougie, on peut allumer la flamme d'une autre bougie. Alors, est-ce que la flamme de la bougie, deuxième bougie, qu'a à voir la flamme de la deuxième bougie avec la première? C'est juste ce continuum qui fait que nous revenons pour pouvoir purifier encore ce qui n'a pas été purifié. Quand on a demandé à Kalu Rinpoche qu'est-ce qui se réincarne, il a répondu « Your bad habits ». Vos mauvaises habitudes. En fait, nous nous réincarnons pour pouvoir encore continuer ce travail de purification. Alors vous me direz, comment ça se fait qu'on est toujours plus nombreux sur cette planète? Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste prendre ce qui nous aide à lâcher le moi. Moi, j'ai vécu deux fois une expérience vraiment intéressante, où une fois, j'étais quelqu'un d'autre dans une situation horrible. Et puis une fois, j'étais quelqu'un d'autre dans une situation vraiment chouette. Et le plus impressionnant, c'est que je disais moi exactement la même chose que je dis moi. Mais le dedans, il était complètement différent. C'était chouette de pouvoir avoir cette même sensation d'être propriétaire, parce qu'on a quand même un peu sensation d'être propriétaire de ce qu'il y a là-dedans, avec du corps, tout ça. Mais il y avait complètement autre chose. Et ce sont des expériences ou des réflexions sur le karma qui permettent juste un peu de lâcher cette souffrance de l'attachement au moi. Et lorsque nous mourons, ben nous lâchons ce moi, nous lâchons tout, nous lâchons nos possessions. Il y a le papa Gleis, mon ex-mari, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et puis quand je suis allée dans sa chambre où il reposait sur son lit, j'ai été tellement touchée émotionnellement de voir tous ces objets qui n'avaient plus personne pour leur donner un sens. Tout d'un coup, ça n'avait plus de sens. Ils étaient laissés à eux-mêmes. Il n'y avait plus personne pour dire j'ai acheté ça ici, avec celui-là. C'était tellement touchant de voir comme le sens qu'on donne à tous ces objets, à un moment donné, c'est fini. Le regard des autres, hein, nous sommes tellement sensibles au regard des autres, fini. Nos rôles, nos la position que nous prenons dans le monde, notre, tout ça, à l'intérieur, à l'extérieur, tout est fini. Et la seule chose que nous gardons, c'est ce continuum de karma, si nous voulons y croire. Qui n'est pas un jeu, qui n'est ni le jeu d'avant, ni le jeu d'après, qui est juste des conditions. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes conditionnés. C'est difficile pour le moi d'admettre qu'il n'est absolument pas permanent, absolument pas en sécurité, absolument pas propriétaire de rien du tout. C'est difficile et en même temps, quand nous approchons cet abandon de l'ignorance, parce qu'en fait c'est l'ignorance, ben, c'est tellement bon. En fait, c'est tellement bon de ne pas être propriétaire, puis de tout lâcher. Puis c'est tellement douloureux d'être tout le temps gardé, s'accrocher. Le karma a beaucoup à voir avec ces cinq agrégats, où la forme, où le contact crée le ressenti et la perception. Ça, c'est du karma. Nous n'avons aucun choix sur le fait que nous soyons homme ou femme, suisse ou congolais, beau ou moche, ouvert au dharma ou fermé au dharma. Nous n'avons pas de choix. Ça nous arrive, extraverti, introverti, riche ou pauvre. Et ça n'est pas une fatalité ou un... C'est ce mystère de cette loi de cause à effet. Et pour ma part, c'est bon de voir les choses comme ça, parce que ça évite que je blâme. C'est de la faute à machin, ou la mienne. Ou... C'est de la faute à personne. Il n'y a d'erreur nulle part. Il y a cette cohérence mystérieuse qui fait que je suis là, maintenant. Et que la seule chose qui compte, ça n'est pas de vouloir un autre karma, de nous réjouir à fond d'un bon karma, de nous désoler à fond d'un mauvais. C'est que il y a cette impermanence, non seulement à l'intérieur, mais d'un être à l'autre. Et le choix, c'est est-ce que je continue cette roue du samsara ou est-ce que j'arrête le karma? Est-ce que je passe de la conscience ordinaire à la pleine conscience? Ou est-ce que je continue dans ce sens du moi qui est terriblement limité, imparfait? Et ça nous encourage à travailler cette ouverture aux choses telles qu'elles sont, au maintenant. Et à voir quand nous sommes dans les formations mentales, quand nous sommes dans les sankhara, t'aurais pas dû, il faudrait. Alors, qui c'est qui partageait à midi je trouvais chouette, elle disait « Ne regarde pas ta montre, ne bouge pas. » On se dit ces choses, arrête de somnoler. C'est ces sankhara qui viennent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est cette loi de cause à effet qui m'amène au jugement? Et nous pouvons voir. Si je veux regarder ma montre, probablement qu'il y a de l'ennui. C'est désagréable. Puis je me dis, ben, ce sera fini une fois, la cloche sonnera. Alors attends, je regarde une cloche, voir combien de temps il y a. Puis si je me dis, ne bouge pas, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ce sens du devoir. Il faut peut-être le regard de l'autre. Pour bouger, il n'y a personne qui bouge. Cette loi de cause à effet qui se passe sans arrêt. Et alors le dialogue extérieur. Nous sommes toujours intéressés par avoir un meilleur karma ou un moins bon karma. Se retourne à l'intérieur avec toujours le même phénomène. Je veux le bien, je ne veux pas le mal. Et peu à peu, dans ce dialogue entre moi et moi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah ouais, essaye de faire un peu de métta. Ou bien, ouais, non, là je crois que c'est plutôt... Viens vraiment dans la respiration. Peu à peu, ce dialogue s'arrête. Parce que quelque chose se pose. Je me souviens dans une retraite aux États-Unis, j'avais ce dialogue, mais sans arrêt. Puis pour finir, c'était fatigant. Je me suis dit, oh, moi, je fais quoi avec cette histoire? Je me suis dit, bon, ben, je donne tout le pouvoir à ce petit moi. Il peut faire ce qu'il veut. Puis j'étais très étonnée parce qu'il faisait exactement ce que voulait le grand. Donc, quand le dialogue s'intériorise, qu'il y a une qualité d'investigation, on peut mieux voir cet enchaînement qui est lié à mon monde intérieur, mais tout autant au monde extérieur. Et alors, c'est quelque chose qui fait que il y a plus de souplesse dans ce sens du propriétaire. Je vais vous lire laquelle. C'est Ajahn Chah qui dit « Quand les gens croient qu'ils sont les propriétaires des expériences bonnes ou mauvaises, ou que ces expériences leur arrivent à eux, ils sont à la merci de l'impermanence. Comme tout est sujet à changer, être attaché peut seulement produire une expérience insatisfaisante. Vous êtes parfois content et parfois perturbé quand les choses vont et viennent, et change sans cesse. Il y a de la confusion si la compréhension fausse a envahi votre esprit et vous donne des images qui vous induisent en erreur. Vous finissez par porter la souffrance et c'est lourd pour vous. Quand il y a vu juste, alors un sentiment est juste un sentiment. Le plaisir est juste le plaisir, la peine est juste la peine. Il n'y a pas de propriétaire, ni à l'un, ni à l'autre. Le Bouddha voulait que nous contemplions de cette manière. » Dans le Satipatthana Sutta, quand il est dit « contempler le corps comme un corps, les ressentis comme des ressentis, les pensées comme des pensées », c'est cette qualité de sagesse qui sait que c'est juste des conditions. Et je ne suis pas les conditions. Je suis plus que les conditions. Je suis cet observateur silencieux qui fait partie de la conscience universelle. Ça donne une qualité à la vie. karma peut nous aider à désidentifier. Au lieu d'avoir ces pensées d'inquiétude qui peuvent être terribles, nos proches, oh la pauvre, elle ne va pas s'en sortir. Ou bien les enfants dans le monde aujourd'hui, mon Dieu, avec la terre telle qu'elle est, ça ne va pas aller. Il y a du karma. Il y a juste du karma. Et nous pouvons faire confiance à cette cohérence qui nous échappe. Et c'est sûr que lorsqu'il y a l'ignorance et que nous avons ces pensées d'inquiétude qui traversent le mental, qui émergent, le cœur est lourd, c'est dur. Je suis en souci. C'est le maintenant. Donc là, nous apprenons à purifier l'esprit. Nous ne nous laissons pas happer par ces pensées projectiles ou de regret. Mais nous faisons cette œuvre de purification du maintenant. Ah ouais, là, je suis en souci, quoi. Il y a l'inquiétude. Et c'est très important de nommer et puis de reconnaître, oui, il y a, parce que juste nommer puis être complètement, ça va pas y faire. Hein. Je nomme, mais je reconnais. Oui, c'est l'inquiétude. Ça n'est pas à moi, mais c'est là. C'est du réel. Et puis d'accepter, d'ouvrir le cœur essentiel. Et si possible, d'aimer. Je me souviens dans une retraite où, il y a longtemps, c'est rigolo, ça revient, peut-être certains l'ont déjà entendu, tant pis. C'était la fin d'une retraite, puis on discutait comme ça, puis il y a quelqu'un qui disait quelque chose, et puis tout d'un coup, je sens du mépris. Je me suis dit, oh, alors là, il y a jugement. Hein. Oh, bah, quand même, c'est pas bien. Puis j'ai vu la honte, j'ai vu tout ça. Puis il restait ce mépris. Puis je me suis dit, c'est bizarre, parce que maintenant je suis complètement dans l'acceptation. C'est tout beau ce mépris. Ah, non, ça restait quand même. Alors je continuais à parler, mais je sentais bien, hein, c'était là. Et puis, à un moment donné, j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Oh, mais mon petit mépris, je t'aime. Oh. Donc, cette compréhension que ce moi fait partie de quelque chose de plus vaste au niveau karmique, ça enlève un sentiment d'impuissance, d'isolement, d'être à la merci d'un mauvais karma. Oh, j'ai un mauvais karma. C'est horrible quand on y croit vraiment. Non, parce que tout dépend de la réponse que je donne. Et là, j'ai ma complète responsabilité, mon complet choix de la réponse que je donne à ce qui me paraît être un mauvais karma. Et que ce soit au niveau global extérieur ou bien au niveau intérieur d'un ressenti du moment, c'est tout pareil. Est-ce que je cherche le bonheur dans les conditions ou bien est-ce que je cherche comment être heureuse maintenant ? Quelle réponse donner à Dukkha, à la souffrance en moi, des autres, du monde. Et lorsque nous cultivons l'esprit, il y a une impression que la vie prend sens. Nous arrêtons d'être ballottés dans le samsara, aller à gauche, à droite, sans savoir vraiment où aller, sans intention claire. Mais ça n'est pas un sens qui... C'est Milarepa qui parle des joies de l'incertitude. C'est un sens qui est totalement en harmonie avec l'incertitude. C'est le moi qui veut des certitudes. Mais le Dharma, il n'a pas besoin de certitude parce qu'il sait. Non, j'ai besoin de certitude quand je ne sais pas. Mais cette capacité de connaissance maintenant, elle est possible tout le temps. Quand Sati, la pleine conscience, a été travaillée. Donc c'est à nous de travailler notre potentiel. Et la nature, il est dit que c'est très rare de naître dans une incarnation humaine. On est des fois chez les devas, mais les devas, ils ont un très très bon karma, mais ils n'ont aucun choix, ils sont obligés d'être heureux, ils sont heureux tout le temps, puis après, ben, ils renaissent dans un royaume inférieur. Et voilà, c'est... Il n'y a aucune liberté. Alors que l'humain a ce potentiel de développer la conscience personnelle en conscience universelle. Et c'est très rare. Réjouissez-vous d'être un humain, même si vous n'avez pas un karma qui vous plaît complètement. Parce que c'est tellement rare, c'est comme une tortue qui sort la tête de l'eau sur le Pacifique, pas l'Atlantique, le Pacifique. Il sort la tête de l'eau une fois tous les 100 ans et il y a une bouée sur l'océan et tac, elle tombe dans la bouée. Donc, on est très chanceux d'être humain. Je vous lis une parole de Ajahn Pamavedo, qui est un moine Theravada. La chose importante est la réponse que nous donnons aux situations qui émergent. En réagissant habilement, nous pouvons changer la réponse négative en positif. Le choix, c'est le côté positif du karma. Comme être humain, nous pouvons faire des choix basés sur notre intelligence innée. C'est une des raisons pour lesquelles l'incarnation humaine est si précieuse. Et dans l'exercice de la méditation, quand nous ne savons pas, ça arrive souvent, je ne sais pas trop quoi faire, quel outil prendre. Nous pouvons faire confiance à cette intelligence innée, ou cette intelligence intuitive. Parce qu'il faut bien faire des choix dans la vie. Et puis on donne tellement d'importance aux choix que nous faisons, mais ce n'est pas tellement important. Parce qu'il faut bien en faire un. Alors, c'est ça, explorer. Ok, je fais ce choix-là, je suis là. Mais je n'ai pas l'espoir que tout dépend du choix. Tout dépend de la réponse que nous donnons au maintenant quand il émerge. Donc en fait, ce qui se réincarne dans nos vies, d'instant en instant, et de vie en vie, ce sont nos attachements. Et quand il n'y a pas d'attachement, quand il y a un moment où il n'y a pas d'attachement, ben on peut sentir comme c'est bon. Puis après, ça y est, ça recommence. Ce qui nous libère du karma, c'est l'intention. Quelle est mon intention? L'intention, c'est ce qu'on appelle Sammasankappa. C'est un des 8 aspects du chemin octuple. Et dans les sutras, à chaque fois qu'on demande au Bouddha, ouais, mais alors comment faire pour arriver à ce nirvana qui est tellement super? Et puis il répond, eh ben, il vous faut marcher ou pratiquer le chemin octuple. Et Sammasankappa, la pensée sage ou l'intention sage, c'est un des aspects. Pourquoi l'intention? Parce que, je l'ai déjà dit, mais je trouve que ça vaut la peine de le redire. Si je nomme mon intention, énergétiquement, je donne de l'espace. Je prends ancrage dans ma sagesse, dans l'instant. Et forcément que si je pense à questionner mon intention, je ne vais pas être prise par mes habitudes, ou moins. Les habitudes vont suivre, mais elles ne vont pas être prioritaires. Ce n'est pas elles qui vont me mener. Le Bouddha a dit que l'intention, c'était du karma. Si j'ai une bonne intention, si je nomme mon intention, et que du coup elle est forcément présente, conscientisée, peut-être que le résultat sera catastrophique, parce que la loi du karma existe, mais ça ne va pas colorer le continuum de ma vie. Donc c'est énorme. L'emploi de l'intention. En fait, lorsque nous nommons notre intention, ça transforme ce qu'il y a derrière l'acte. Au lieu que derrière l'acte, il y ait juste nos habitudes, nos schémas, l'ordinaire, derrière l'acte, il y a le dharma. Il y a au fond ce que nous cherchons vraiment. Donc l'intention, c'est aussi quelque chose qui fait que nous ne sommes plus victimes de notre karma, mais que nous pouvons dire oui, il y a du karma. C'est tout à fait autre chose. Et que nous pouvons ne plus rejeter la faute ni chez l'autre, ni chez moi, ni qu'il y ait une erreur dans la vie, mais que il y a donc les choses sont imparfaites. Et avec ces choses imparfaites, je peux donner une réponse qui soit adéquate. Et tout ça, ça commence par la présence au corps. Vous l'avez juste maintenant? Tellement important. Parce que l'esprit, il est tricky, il est malin, il mène n'importe où, il crée des choses dingues, extraordinaires, bénies. Je suis un saint, une sainte, puis après je suis un monstre. Mais le corps, il donne des informations qui sont plus claires. Revenir au corps, premier fondement, pour pouvoir aller avec confiance et clarté dans cette complexité du psychomental. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que nous soyons toujours titillés par nos attachements, notre bon karma, notre rejet du mauvais karma, nous passons à une autre forme de désir, c'est ce désir pour la libération. C'est ce désir pour l'au-delà du karma lumineux ou du karma sombre et lumineux. la fin du karma. Et quand nous avons ce désir-là, le Bouddha emploie un autre mot pour la soif des plaisirs du monde. Il emploie le mot tanha. Et pour la soif de libération, le mot chanda. Et nous pouvons cultiver cette soif de libération. Une fois, il faudra la lâcher aussi, mais on a le temps. Je vous lis une parole de encore Ajahn Pamavado. Le problème, c'est que notre potentiel reste endormi et sous-développé. C'est notre travail de l'amener à la lumière. Selon les enseignements du Bouddha, nous sommes responsables, en même temps de ce qui nous arrive et de la manière avec laquelle nous y répondons. Ce qui nous arrive est le résultat de causes que nous avons nous-mêmes mis en mouvement. Notre manière de réagir va déterminer notre futur. Tout ce qui nous reste à faire, accepter le défi et assumer une pleine responsabilité pour développer notre potentiel. Beau, non? Vous avez envie? Mais c'est dur, c'est un sacré boulot. Alors on a le temps, on a beaucoup d'incarnations. Le karma, c'est pas un état mental. C'est un état mental, ça n'est pas l'acte lui-même. C'est vraiment cette intention derrière l'acte. Parce qu'après, l'impact de l'acte nous échappe. C'est pour ça que ça ne sert à rien de tellement réfléchir, est-ce que je fais ça, est-ce que je ne fais pas ça. Il vaut bien mieux nommer clairement notre attention. Mon intention, c'est vraiment d'éviter de faire le mal, de faire le bien et de cultiver mon esprit. Mon intention, c'est d'aller vers la libération. Et après, il y a le pardon. Quelquefois, nous avons besoin de demander pardon ou d'offrir notre pardon. Et puis la compassion. Être sensible à toute ce bronx de la vie. Je vais finir avec une parole qui est dans le Dhammapada. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Nous sommes construits par nos pensées. Ce sont elles qui nous créent. Avec nos pensées, nous créons le monde. Si vous parlez ou agissez avec une pensée négative, les problèmes vont vous poursuivre comme la roue suit le bœuf qui tire le chariot. Si vous pensez ou agissez avec une pensée harmonieuse, une intention claire, le bonheur va vous suivre comme votre propre ombre et ne jamais vous abandonner. Alors, je vous propose qu'on emploie la pensée pour bien pratiquer pendant un petit moment.